Je vais présenter notre dernière invitée de la matinée et dernière conférencière, qui est Dominique Perrin, maîtresse de conférences en langue et littérature française à l'IUFM de l'Université Lyon 1. Vous êtes membre du laboratoire Passage 20-21, j'en ai conclu peut-être un peu naïvement que c'était 20e, 21e siècle, c'est 20-21, ça veut dire non, pas forcément
oui, 20-21e siècle.
Voilà, d'accord, parce que comme c'était 20-21, donc... Vous êtes co-directrice avec Anne-Marie Mercier, je pense, du groupe Pralige.
Oui.
Voilà. Vous êtes responsable du projet Du sourire qui mord à être édition, Christian Bruel, la littérature de jeunesse et le politique, qui devrait donner lieu à une publication prochainement. Il faudra peut-être nous en parler de cette publication qui est attendue, où elle est publiée, quel en sera le contenu. Vous êtes membre aussi de l'équipe critique du site internet, alors je ne sais pas comment on prononce, mais littérature et jeunesse en tout cas. Liège, L-I-E-T-J-E. À celles et ceux qui tenteraient de vous reprocher de ne vous occuper que de littérature de jeunesse, vous pourriez répondre que Louis Poirier, alias Julien Gracq, est l'un de vos amis, puisque vous lui avez consacré de nombreuses heures, et notamment une thèse. Mais ici, personne ne vous reprochera de vous intéresser à la littérature jeunesse, ni à l'un de ses éditeurs français les plus marquants de sa génération. J'ai nommé Christian Bruel. Le titre de votre communication ce jour est programmatique et semble s'inscrire dans votre perspective de réflexion consacrée à la littérature de jeunesse et aux politiques dans les albums de Christian Bruel. Voici ce titre, Christian Bruel, les ressorts du collectif, créer, éditer, lire à plusieurs. Vous avez une demi-heure, merci.
Je vous remercie beaucoup. Je dis très brièvement à quel point je me réjouis de profiter du dynamisme clermontois et de pouvoir partager cette journée avec vous tous. Donc, ma collègue a, je pense, montré avec un ouvrage emblématique à quel point les livres édités par Christian Bruel sont conçus pour être lus à plusieurs. Vous m'entendez bien ? Parce que le dispositif pédagogique en fait était très atypique en contexte scolaire, au sens où les élèves ont été en autonomie et en autonomie collective, c'est-à-dire qu'on a fonctionné uniquement par petits groupes puis grands groupes, et les enseignants ne sont pratiquement pas intervenus dans les modalités d'accès à l'œuvre. Donc, des ouvrages faits pour être lus à plusieurs, et des ouvrages qui, on l'a bien vu, sont des ouvrages souvent polyphoniques. Je voudrais revenir sur un aspect complémentaire de ceux qui ont précédé, en réfléchissant sur une autre singularité qui me paraît décisive de la création Au sourire qui mord et à être édition, à savoir que c'est une création qui est le plus souvent collective. C'est-à-dire qu'on a assez rarement une création à créateur unique. On a de temps en temps une création à deux, ce qui est classique pour l'album. Et on a finalement, peut-être encore plus souvent, une création à plus que deux. Et c'est ce plus que deux qui va m'intéresser beaucoup aujourd'hui. Et du coup, parallèlement, on observe, parallèlement à ce constat, que... on assiste à une forme d'abolition des frontières entre les activités de création et les activités d'édition, au sens où on les entend habituellement. Alors, je reviens sur la fondation et l'histoire du sourire qui mord, pour montrer, après Caroline Wainville, à quel point on a affaire ici à une politique de l'album, au sens fort et au sens strict. C'est-à-dire qu'on a affaire à un projet et à une pratique, je vais beaucoup insister sur les pratiques, qui renvoie avec beaucoup de cohérence à une conception générale de ce que sont et de ce que pourraient être les rapports entre les différents membres d'une société donnée, et notamment les rapports entre générations. Et je vais donc questionner les statuts du livre, du jeune public, de l'auteur et de la création, en faisant défiler, pour commencer, quelques couvertures que je vais vous demander de réexaminer attentivement. Et puis ensuite, je vous inviterai à une activité qui est enthousiasmante a priori et qui est une activité de lecture du catalogue du fond. Donc, je vous invite à vous repencher sur la sobriété des couvertures de ces premiers albums fondateurs hein, de la collection À propos d'enfance avec un S. Histoire de Julie qui avait une ombre de garçon, nous sommes en 1976. qui pleure, nous sommes en 1977, vous voyez que la sobriété est encore plus frappante. J'ai ensuite sauté jusqu'à 1979, puisque j'avais la couverture de La Manginoire, sur laquelle il me paraissait intéressant de voir une mention nouvelle, les livres du sourire qui mord. Vous voyez que tout doucement, on commence à voir les mentions qu'on attend habituellement sur un ouvrage. Et c'était déjà le cas pour Lison en 1978. Et puis je saute à 1986. Et au passage à la collaboration avec Gallimard, pour voir apparaître des noms d'auteurs sur ces couvertures. Donc, pour comparaison, je vous propose de regarder la couverture d'un ouvrage qui est contemporain du premier album, Histoire de Julie, qui est édité par des femmes, dont on sait à quel point cette maison d'édition a compté pour Christian Bruel, Les cinq femmes de Barbare Jean. On a, dès le départ, aux éditions des femmes, le titre, mais aussi des noms d'auteurs et un nom d'édition. Voilà, donc ce qu'on a constaté, c'est quelque chose d'intéressant, de remarquable, c'est-à-dire que ce qui est souvent décrit comme une contrainte du champ de la littérature de jeunesse à ses débuts, c'est-à-dire que la notion d'auteur n'y est pas très forte, n'y est pas très reconnue, et bien justement, ici, est revendiquée au nom de la qualité, justement, des œuvres. Et ce que vous avez pu lire dans la progression de ces couvertures, c'est le fait que l'œuvre prime, puis la collection qui incarne un projet collectif, et que derrière, bien sûr, il y a des auteurs dont vous avez maintenant les noms sous les yeux et dont on trouve l'indication à l'intérieur du livre. Alors, j'essaie de restituer un petit peu la présentation telle qu'on la trouve, la disposition de ces mentions telle qu'on la trouve à l'intérieur des ouvrages. Vous voyez que pour la première édition de Histoire de Julie, on a en vis-à-vis les noms d'auteurs et bien sûr la mention du collectif et de la collection qui prime en fait dans la philosophie de la jeune maison d'édition. Et je rappelle ici, après Caroline Winville, mais ça paraît extrêmement important, que le collectif Pour un autre merveilleux se pense comme un collectif producteur qui réunit les activités de création et d'édition dans des relations qui se veulent expressément horizontales et non pas verticales. Quatrième édition, pardon, dont j'ai remis les mentions sur cette diapo, on voit apparaître une nouvelle mention du côté des auteurs avec la collaboration de Annie Galland. Donc, commentaire que peut nous inspirer cette évolution, c'est que justement, au sourire qui mord et à être, on a affaire à des ouvrages qui sont assez souvent évolutifs. Il est donc très important d'en avoir les différentes éditions. Il se trouve que cette quatrième édition montre quelques modifications dans sa maquette, dans sa mise en page, dans ses couleurs. Et puis, tout à l'heure, Christian Bruel m'a dit que Annie Galland avait demandé à voir son statut de créatrice reconnu dans ses mentions, puisqu'au départ, le bouillonnement était tel et la difficulté d'attribuer sans doute le statut de créateur quand on travaille collectivement ont fait que Annie Galland n'avait pas été créditée pour la première édition. Et puis, deuxième de couverture pour cette quatrième édition en 1978, chaque livre du sourire qui mord est accompagné d'un bulletin de 9 pages qui présente notre démarche, c'est bien sûr le nôtre qui m'intéresse. Au cas où ce bulletin aurait glissé hors du livre, nous pouvons vous le faire parvenir. Il y a une interlocution qui montre bien le projet politique qui sous-tend tout cela, c'est-à-dire qu'il y a un rapprochement de la production et la réception dans le cadre d'un réseau qui soit populaire et qui échappe aux grandes autoroutes de l'économie de marché dont on sait qu'elles sont à sens unique. Et puis, une petite précision, pour cette ambition de créer un réseau de diffusion populaire, je crois qu'il faut souligner qu'il y a quelque chose de difficile qui a été tenté, qui était de passer par les comités d'entreprise à l'époque, c'est-à-dire de vraiment relier le monde de la culture et le monde du travail. Et puis 2009, dernière édition en date de Histoire de Julie, je trouve très parlante la disposition qui a été choisie et que j'ai restituée sur ma diapo. On voit bien ici se mettre en place un trio qui est récurrent, qui est emblématique, donc trois auteurs. On est très loin de la simplicité du duo habituel. Et je voudrais lire très rapidement ce que Christian Bruel a dit dans un entretien avec Ricochet en 2010. Jacques Lacan, à propos de l'amour, écrit que c'est donner ce que l'on n'a pas à quelqu'un qui n'en veut pas. Disons que quand des créateurs se choisissent, c'est le contraire. Donc on va avoir ici accès à toute une réflexion beaucoup plus poussée que d'habitude sur les cuisines de la création et sur ce qui s'y passe de très compliqué et de très interactif. J'accélère parce que je m'aperçois que je suis terriblement longue. J'ai proposé un saut dans le temps. En 1992, Christian Bruel est l'un des trois experts, et je crois qu'il mérite bien ce nom, consulté pour la définition et la conception de l'espace jeunesse de la BNF. Et il met en avant trois idées forces qui ont trait, là encore, à cette emprise du collectif dans la production littéraire pour la jeunesse. Donc, il parle de la création d'un laboratoire, ce qu'était bien le collectif pour un autre merveilleux. Il resitue la lecture dans un monde de relations. Lire, c'est mettre en lien un livre donné avec d'autres livres. Et puis, il rappelle beaucoup plus généralement que penser, c'est une activité dialogique. Je vais donc m'intéresser, en revenant au début, à la mise en place de ce qu'on peut nommer, désigner comme une auctorialité collective très spécifique au sourire qui mord, puis à être édition, bien que d'une autre manière, on va le voir. Alors, je passe vite sur ces trois diapositives. Kipler, on voit que pour sa deuxième édition, il est bien l'œuvre en fait, de trois complices. Annie Galland apparaît à nouveau, et Kipler a bien été fait aussi dans l'interaction avec les classes de maternelle dont il était question tout à l'heure. 1978, vous voyez que le trio est toujours là pour Lison et l'eau dormante. On se questionne forcément sur le statut d'Annie Galland dans cette création. On se doute qu'elle est peut-être du côté de l'histoire, c'est-à-dire d'une dimension de la création qui est rarement répertoriée en tant que telle. Et puis, en 1986, on voit, j'ai pris cet exemple parmi beaucoup d'autres, revenir donc Annie Galland, avec un statut encore différent, qui est celui de photographe. Donc, une très grande variété des postures. Cette diapositive, je l'ai intitulée « Auteur collectif, public collectif », autre grande caractéristique de la production en question. Mon grand album de bébé, c'est un album qui est sans doute passionnant et remarquable parce qu'il est fait par un quatuor. Et je crois que ça nous pose beaucoup de questions sur la manière dont, en particulier, des illustratrices peuvent travailler ensemble pour donner une unité à leur dessin. C'est un livre qui a été offert à tous les enfants du département du Val-de-Marne, né en 1990. C'est donc le début d'une politique du livre en direction de la petite enfance dans ce département, qui fonctionne par appel à projet. Et qui s'inscrit dans une multiplicité d'autres actions. Et donc, je voudrais vous laisser réfléchir une seconde à la structure de ce public qui est très, très différente de celle du public habituel des albums, puisqu'ici, on a affaire à un public qui ne comprend pas de distinction de classe et de culture, a priori. Et puis, très rapidement, dans le propos de dédicace du président du Conseil général du Val-de-Marne, eh bien, je vous laisse parcourir le texte du regard. On a, sur un plan énonciatif, quelque chose d'important, c'est-à-dire qu'on a un représentant politique qui s'adresse au nom de la communauté, qu'il représente lui-même, au lecteur. Il y a un « je » et un « tu ». Et je crois qu'il y a vraiment l'idée que on institue le jeune lecteur comme sujet politique en tant qu'il est un sujet culturel. Autres ouvrages vraiment qui témoignent d'un travail collectif, mais pratiquement à l'échelle de ce qui se passe pour le cinéma, « La mémoire des scorpions et petite musique de la nuit ». On a des équipes qui sont extrêmement nombreuses et qui ne sont pas toutes créditées ici. Mais ça mérite attention. Et ce nombre des créateurs, des partenaires, est lié au fait que, là encore, on est dans un projet artistique qui est soutenu par une subvention après appel à projet. Et on sait que Christian Bruel a toujours profité de ces subventions financières pour aller toujours plus loin dans le travail artistique et dans le travail sur la matérialité du livre. Et puis, je vous laisse voir à chaque fois qu'on a des livres qui sont récompensés, qui sont reconnus sur un plan national ou international. Autre exemple de réalisation collective, Nic Nac Noc, un autre ouvrage qui a été offert à toute une génération d'enfants en 1995, en région parisienne. Donc, cette fois-ci, on a un livre qui est composé de trois livres. Donc, vous voyez encore quelque chose qui se joue du côté du dialogisme dans la littérature pour la jeunesse. Il y a trois esthétiques dans un livre qui est constitué en sandwich. Et puis, on a toujours le renvoi, toujours en 1994, au sourire qui mord, comme collectif. J'avance. Et je vous propose de réfléchir un petit peu plus avant sur le statut de l'auteur dans l'ensemble de ses créations. Et je vous propose donc une diapositive que j'ai intitulée « L'auteur, idée en album ». Et je crois que c'est très largement l'idée principale qui se dégagera de la réflexion que je propose aujourd'hui. Vous avez ici, entre autres exemples possibles, donc très bel album sans texte qui s'appelle « Les dessous du sable ». Et vous voyez que sont crédités trois postes du côté de la création. Il y a au départ une sculpture réalisée par Anne Galland. Il y a un travail qualifié de conception par Anne Galland. Et puis un travail d'image. Alors je crois que l'ordre de ces mentions compte beaucoup. Vous voyez que la référenciation dans le catalogue de Mathieu Lécuyer renvoie à la notion d'idée originale pour Anne Galland. Là, on a vraiment un dispositif qui nous permet de penser le fait que l'auteur d'un album, c'est celui qui a l'idée en album, et pas forcément celui qui réalise les images. Et puis, on a bien sûr un effort pour attribuer de façon assez nette, contrairement à ce qui se passe au début, en 1976, pour attribuer de façon assez nette les différents apports de chacun. J'en arrive bien sûr à la notion d'auteur-image qui est connue, puisqu'on est tous souvent très mécontents de devoir parler d'auteur et d'illustrateur, puisqu'on sait très bien qu'on a des auteurs des deux côtés. Donc l'auteur-image, c'est un avatar fondamental de l'auteur-idée en album. Donc on en a deux exemples ici, avec l'autre moitié, pour lequel sont créditées d'abord les images de John Coven, puis le texte de Coven et Bruel. Et on voit donc que dans le catalogue officiel du Fonds Bruel, on a le plaisir de voir apparaître en première place quelqu'un qui fait les images. Et puis, exemple plus parlant encore, pas facile l'amitié qu'on a évoqué tout à l'heure. J'ai tenté de rendre compte dans la présentation originale des mentions dans l'ouvrage. Donc, Ingrid Hegeberg est mentionnée en lettres capitales. C'est bien elle qui est l'auteur image de l'album. Et puis, Bruel Christian est l'auteur au sens où il a fait le texte. Mais je crois qu'il est symboliquement important et très sous-pesé qu'il apparaisse en deuxième position. Alors, une troisième déclinaison possible de cet auteur idée en album, de cet auteur image, l'auteur idée en image. On y arrive logiquement, et j'espère que je ne vous perds pas trop sur ce plan logique. Donc, l'auteur idée en image peut être distinct de l'auteur des images, y compris dans des albums sans texte. Alors ici, on est dans la collection Plaisir, qui est une collection très sobre d'apparence, mais qui est à juste titre assez connue. Première édition de Liberté Nounours, c'est Anne Bozlek qui est mentionnée comme éditeur sur la couverture de l'ouvrage, qui est mentionnée comme auteur, pardon, avec sur la contre-garde Conception Christian Bruel, ce qui nous interroge bien sûr sur ce qu'il faut entendre par conception. 1987, Le jour de la lessive, cette fois-ci un album où il n'y a pas de texte du tout. Et cette fois-ci, vous voyez qu'on a affaire à un cas de figure différent dont les auteurs ont collégialement rendu compte de façon différente. Cette fois-ci, c'est Christian Bruel, qui n'a donc pas produit de texte, mais qui apparaît en premier, qui est crédité comme auteur et qui est bien à l'origine de l'histoire qui est présentée dans l'ouvrage. Histoire au sens large, bien sûr. Et puis, en 1988, « Des hauts et des bas », un autre album sans texte, et cette fois-ci, c'est Nicole Clavelou qui est mentionnée comme auteur unique, avec simplement sur la contre-garde, à nouveau, conception Christian Bruel. Mais en dessous, dans la référenciation donc, du catalogue du fonds, on a cette fois-ci les deux parties prenantes mentionnées comme auteurs. Donc vous voyez, tout ça pose des questions très subtiles, et j'espère que j'arrive à vous montrer un petit peu à quel point elles posent des questions importantes. Alors, perspectives intermédiaires, après ce tour d'horizon concernant le sourire qui mord, l'album se présente bien dans ce projet fort novateur du sourire qui mord comme un agencement collectif. Je détourne ici une expression de Gilles Deleuze, un agencement collectif au risque de l'ouverture du sens. Si on peut dire qu'il y a une aventure là-dedans, c'est vrai que c'est l'aventure de l'iconotexte, au sens où l'iconotexte, je crois quand même, engage une pluralité de postures créatives et donc une pluralité d'auteurs. Et on est assez souvent très focalisé sur la figure un peu mythique de l'auteur illustrateur autarcique, mais je crois qu'on a affaire ici à une situation bien plus représentative de la fécondité de l'album en tant qu'œuvre d'art, c'est-à-dire une œuvre d'art créée essentiellement à plusieurs. Donc mon propos, ça serait de dire que la pluralité des auteurs est vraisemblablement liée à la complexité des représentations qui vont pouvoir avoir lieu dans l'album et du coup à la pluralité des lectures qui est revendiquée donc par Christian Bruel. Et puis mon deuxième point, Christian Bruel éditeur, alors c'est un peu rapide, un peu cavalier, j'ai proposé de nous le représenter comme une maison de production d'idées à lui seul, et en plus j'ai ajouté une maison de production d'idées durable, ce qui me paraît très important parce que je pense qu'il a quand même beaucoup duré, bien qu'à un moment, à deux moments, il ait dû se mettre en sommeil. Christian Bruel éditeur, ici, apparaît comme quelqu'un qui pense en album. Je crois qu'il faut bien mesurer l'importance de cette syntaxe, hein, qui vient à nouveau de Deleuze, qui dit « un cinéaste, c'est quelqu'un qui pense en cinéma ». Et là, on a quelqu'un qui pense en album. Je crois que c'est aussi quelqu'un qui désire l'album, qui est quelqu'un qui impulse. Donc je dirais que c'est plutôt une figure d'éditeur-auteur plutôt que d'auteur-éditeur. La nuance me semble importante. Et puis Christian Bruel, éditeur, c'est quelqu'un qui pense l'album tout court, qui publie des essais et qui fait un travail de médiation, de formation et de représentation syndicale de l'édition pour la jeunesse, qui est évidemment important. J'avance. Un bref aperçu sur ce qui se passe dans l'aventure continuée que constitue Être Édition. Alors, comme dans un manuel, comme dans un texte officiel, j'ai proposé ce titre, « Construction d'un espace culturel public européen ». Il faut bien insister sur « public et européen », puisque ce qu'on voit se poursuivre, c'est le travail sur la lecture publique, en accord donc avec des instances politiques, et puis l'impulsion de traduction à l'intérieur du champ que constitue l'Europe, et on voit donc émerger la figure de l'éditeur traducteur, du traducteur littéraire. Je vais passer assez vite. Donc, Chonchon, on a affaire à un ouvrage qui a été largement primé et qui a pu atteindre tous les enfants d'une génération donnée dans un département donné. Album, même chose. En 2000, Nours, je passe vite parce que j'ai déjà commenté tout à l'heure le propos de présentation de l'instance politique, à savoir ici une municipalité, la ville de Grenoble, renvoie bien encore à un phénomène d'interlocution directe des lecteurs, des familles par le politique. Et puis, il y a bien sûr ici un propos sur ce que c'est qu'un bébé, c'est-à-dire il y a un propos sur le bébé comme maître de relation, et tout ça, j'en reparlerai très brièvement tout à l'heure sur le plan des représentations. La grande question, très rapidement, mais quand même, il faut qu'on dise que c'est justement une situation bien particulière, puisque c'est un grand artiste allemand qui publie directement en français, grâce à une politique française de la culture, et que c'est un livre, en plus, qui est à continuer, donc toute une philosophie qui se résume dans l'ensemble de ses caractéristiques, avec une exposition qui correspond aux vœux de Christian Bruel, que les jeunes lecteurs puissent comprendre que la création s'inscrit dans tout un univers. J'avance très vite pour parler de ce qui se passe avec l'espace néerlandais. Donc, un premier ouvrage qui est publié avec le concours du Fonds flamand des lettres et qui est le fait d'une auteure flamande. Et puis, un deuxième ouvrage qui est de la même auteure flamande et qui est écrit directement en français, là encore, dans le cadre d'une politique culturelle. Ça me paraît important comme renversement. Et puis, un dernier aperçu sur ce monument que constituent donc les deux ouvrages évoqués déjà tout à l'heure, recueil de comptines, Quand serons-nous sages, quand serons-nous diables. Ce choix éditorial me paraît emblématique, à nouveau de toute une philosophie, puisqu'il vient donner, il vient diffuser largement la représentation du phénomène littéraire comme dépassant très largement l'individu auteur et comme étant au contraire un phénomène largement collectif. Pour résumer donc, je cède la parole à l'intéressé, à Christian Bruel. J'ai ici repris le contenu d'une affiche sans date qui se trouve dans les archives du Fonds Bruel. Et vous avez sous les yeux un programme politique qui pourrait se trouver dans les programmes de nos candidats actuels à l'élection présidentielle. Malheureusement, je ne crois pas qu'il s'y trouve tel quel, mais c'est bien un programme politique. Et puis, j'ai repris aussi donc, le très beau texte qui est imprimé sur le sac oxo-biodégradable présenté tout à l'heure. Pour que naisse un livre, il faut un créateur et même plusieurs. Je crois qu'on l'a illustré. Mais combien faut-il d'hommes et de femmes pour le photograver, l'imprimer, le relier, l'empaqueter, le protéger, l'acheminer, le gérer, le présenter, le raconter, le défendre et l'aimer comme vous l'aimerez, peut-être, libre à vous. C'est aussi cela la valeur du livre et c'est aussi cela le prix du plaisir de lire. Vous voyez qu'on a bien à faire ici un véritable projet de société dont nous sommes tous comptables. Quelques dernières minutes, si c'est possible, pour évoquer ce qui se passe du côté des représentations, mais vous ne serez pas surpris de ce que je vais dire, donc je vais pouvoir être très brève. L'ensemble des albums publiés par Christian Bruel rend compte de ce que nous savons aujourd'hui. J'ai mis sur cette diapo la mention d'un penseur qui doit pouvoir faire référence aujourd'hui pour nous, pour penser le collectif et le politique. C'est François Flahault qui montre que le groupe social précède l'individu. Donc, dans l'histoire de l'humanité en tant qu'espèce, et puis dans les caractéristiques observables de la vie sociale qui est la nôtre aujourd'hui. Donc, une proposition très forte qui va à l'encontre d'une thèse qui préside encore à nos rapports économiques, hein, qui veulent que l'individu soit premier et soit autarcique. Et puis, j'ai proposé de faire référence très rapidement aussi à un ouvrage plus ancien et fondamental de Adorno et Horkheimer, La dialectique de la raison, qui est écrit en 1944, et dans lequel les deux penseurs, en pleine crise de civilisation, diagnostiquent le fait que les rapports de domination au sein des sociétés humaines vont de pair avec une peur originelle, ancestrale et qui existe toujours, bien qu'elle n'ait plus de raison d'être, et qui est une peur qui coupe l'être humain occidental du monde en général et du vivant en général. L'être humain occidental se conçoit comme coupé du monde et comme en danger dans l'ensemble de ses rapports avec autrui. C'est ce qui me permet de faire un dernier parcours dans trois ou quatre ouvrages publiés par Être Édition et qui viennent donc de l'espace européen. Tous ces petits canards racontent l'histoire d'un renard qui s'appelle Conrad et qui est un être en tension entre des instincts qui le poussent à manger, à avoir faim, et le fait que finalement il se trouve happé dans un réseau de relations, vous voyez ici, avec des canards qu'il n'arrivera jamais à manger et qui, au contraire, proliféreront pour son plus grand bonheur à côté de lui. Mama Sambona, un ouvrage traduit de l'allemand qui nous montre une image de la mort comme vaincue par une grande reine africaine qui sait lui rappeler que, de toute façon, le fait de pouvoir danser, c'est-à-dire vraiment d'être ensemble au sens fort et apte à nous faire oublier tout le reste. Puis ce qui m'intéresse dans cette contrepage avec un dessin en noir et blanc, c'est de voir la mort qui n'est pas en train de danser dans une foule, mais qui est en train tout simplement de prendre l'air au bord d'un lac en faisant des bulles. Donc le rapport au monde, en général, derrière le rapport des humains avec les humains. Robert Pinou, un livre magnifique, qui campe un personnage qu'on ne voit jamais en rapport avec des semblables et jamais en rapport avec d'autres êtres vivants, qui vit dans un monde d'objets et qui pourtant s'avère totalement mystérieux, parce que la dernière image de l'album ouvre sur l'énigme de son rapport au monde réel et de ce qu'il met dans les objets qui sont autour de lui. Je passe sur son premier poisson. Et puis, je dis un dernier mot sur Lena Lena, dont je suis moi aussi devenue adepte, après ne pas avoir forcément compris de façon spontanée pourquoi l'éditeur Christian Bruel avait revu un petit peu le texte de présentation, quatrième de couverture, pour le rendre encore plus fort, hein, je crois, par rapport à la version néerlandaise. Le texte de présentation dit « Lena Lena est une petite fille essentielle et inoubliable ». Et à la longue, j'ai compris pourquoi Lena Lena est une petite fille essentielle et inoubliable. Je vous passe ici simplement une planche d'images dans laquelle on voit qu'elle joue avec une amie, elle joue à se coiffer, elles sont dans le social au départ, puis finalement elles vont se baigner. Et Lena Lena décore le corps de son amie, le corps nu de son amie, avec des brindilles et des cailloux, et retrouve ici tout un rapport au monde, un rapport d'ouverture, d'accueil, qui me fait penser à une scène fondatrice de notre littérature occidentale et qui me fait penser en l'occurrence donc à Ulysse dans l'Odyssée quand il parvient à retoucher terre après s'être échappé de l'île de Nausicaa. Il arrive en terre étrangère et il vit la même chose que Lena Lena, mais Ulysse, qui est un grand personnage important de la pensée de Adorno et Horkheimer, dont je pensais tout à l'heure. Ulysse, lui, c'est un personnage masculin, d'ailleurs, et d'adulte, qui est en combat perpétuel avec le monde qui l'entoure et qui, lui, au contraire, se cache devant Nausicaa, qui vient l'accueillir, qui a le besoin de se vêtir et qui se sent sans arrêt menacé. Donc, au contraire, Lena Lena, c'est une petite fille qui nous rappelle qu'en tout cas au XXIe siècle, nous pourrions ménager des rapports fondamentalement différents avec l'ensemble du vivant qui nous entoure. Je vous remercie beaucoup.
Merci. Merci. Merci beaucoup, beaucoup, Dominique Perrin, pour cette lecture. On sent la linguiste, ce regard particulièrement percutant sur la disposition de mots sur des couvertures, sur des contre-gardes. J'avoue que tout ceci est éclairant, m'a beaucoup appris, nous a beaucoup appris. Alors bon, je vais arrêter là. Simplement, voilà, on a pris du retard. Il faut absolument que nous quittions la salle dans 10 minutes. Un quart d'heure. Donc, je laisse la parole à la salle pour intervenir, poser des questions à nos deux invités. Christian va réagir, je pense, mais alors rapidement aussi. Voilà. Donc, des questions pour ces deux belles présentations d'une équipe à Lyon qui travaille en ce moment beaucoup sur l'œuvre, les productions de Christian Bruel, et on attend beaucoup de ce livre.
Je voudrais juste vous remercier, bien sûr, et je suis ravi que vous ayez parlé de Lena Lena, car je crois que je fais ce métier pour publier Lena Lena. Et j'avais toujours dit à l'éditeur néerlandais, 15 jours, je publierai son livre. Il me disait, oui, l'air de dire, cause toujours mon bonhomme. Il n'y croyait pas lui-même. Et j'ai été vraiment heureux de publier ce livre-là. Et je suis heureux aussi que vous ayez terminé en montrant donc une diversité d'ouvrages. Car contrairement, j'ai entendu mon nom pour la première fois, en 2 heures, j'ai entendu mon nom 2000 fois, ce qui me réjouit beaucoup, mais je ne voudrais pas que vous ayez l'impression que tous les livres d'édition Être et le sourire qui mord ont tous été signés par Christian Bruel. Je les ai tous portés d'une certaine manière. J'ai été leur catalyseur et leur chef d'orchestre. Certains ont été signés de mon nom, d'autres n'ont pas été signés, parfois par un accès de pudeur. Je pense à Nick Nack Nock, par exemple, ce livre-là, dont je suis l'auteur clandestin du texte, mais je ne l'ai même pas indiqué, ni je ne vous l'avais même pas dit. Voilà. Et donc, c'est vrai que l'empreinte de Christian Bruel est forte sur cette production, mais il y a Cathy Coupry, il y a Harriet, il y a tous ces gens-là, il y a Gerda Ten Doven, qui est une grande artiste néerlandaise, et il y a Wolf Erlebroux, à qui vous ne pouvez vraiment pas vendre des pois qui ne vont pas cuire. Quoi. C'est-à-dire que Wolf Erlebroux, c'est le genre d'artiste avec lequel il n'est pas question de, que le catalyseur Bruel intervienne au-delà du raisonnable.
J'aurais une question pour Monsieur Christian Bruel. Par rapport à tout à l'heure où vous avez cité un de vos anciens concurrents, quand il disait que vous n'avez pas réussi à tenir.
C'était pas un concurrent.
Non, c'était pas un concurrent.
Non. Les éditions de Minuit, à ma connaissance, n'ont jamais fait de livre de jeunesse.
Oui, d'accord. Non, ouais,
voilà. C'est un confrère.
Voilà, un confrère. Sur le fait que vous ne saviez pas tenir vos maisons. Et de par le fait, entre autres, que vous faites des productions éditoriales militantes, mais aussi, comme vous le disiez, que vous aviez oublié que vous saviez compter. Quels seraient vos conseils pour peut-être de futurs jeunes éditeurs dans la salle qui voudraient savoir allier de façon intelligente une production qui se veut militante, ou en tout cas... Qui fait passer en priorité les idées et ces volontés-là, et d'allier ça avec des techniques de commercialisation ou de savoir communiquer, savoir rendre la chose rentable au profit des idées.
Petite question que 37 ans de pratique ne m'ont pas permis de résoudre. Donc, alors, par contre, plus sérieusement, pour répondre au moins brièvement, il y a une vieille loi dans ce métier, c'est la loi du 20-80. C'est-à-dire qu'on prétend, dans le métier de l'édition, que 20% de la production permettrait de faire vivre 80%, les 80% qui restent. Cette loi est une loi qui n'est plus vraie actuellement. Parce qu'on travaille en flux tendu, parce qu'on travaille avec des exigences économiques et une loi de marché terrible et fortement concurrentielle. Et cette loi du 20-80, je pense qu'elle n'est plus vraie du tout. C'est très difficile pour un éditeur d'être capable d'équilibrer entre les livres qu'il veut absolument faire, parce qu'il a l'impression qu'il pourrait jamais vivre, se regarder dans la glace si ce livre-là n'était pas, non, se regarder dans un miroir si ce livre-là n'était pas publié, et la nécessité absolue de faire qu'il soit possible d'en publier encore demain des livres. C'est dans cette contradiction qu'on s'inscrit pas uniquement dans la dimension militante, mais la dimension culturelle plus large. Quand on prend le risque de produire un livre comme Anima, qui fait 9,20 m de long, quand on le déplie, et où il n'y a absolument pas de texte, ça n'est qu'une longue fresque animale de Cathy Coupry, peut-être qu'on peut juste le déplier pour montrer, quand vous prenez le risque de faire un livre comme ça, et que vous vous mettez à, merci beaucoup, quand vous vous mettez à calculer le prix de revient du bouquin, et que vous estimez un prix de vente, et que vous vous rendez compte que le prix de vente va être absolument faramineux, à ce moment-là, vous prenez la décision éditoriale de... éviter de le détruire, parce que ce livre-là est de la... voilà, merci beaucoup. Voilà, à plusieurs. Attention, il est déjà... Voilà. Donc, quand vous décidez de faire un livre comme ça et que vous voyez que le prix de vente va être absolument faramineux, ben vous prenez la décision de politique éditoriale de dire tant pis, je le fais quand même. Mais si vous faites ça deux fois, trois fois dans l'année, vous êtes cuit. Et j'en parlerai tout à l'heure, mais la raison pour laquelle Le Sourire qui mord a dû s'arrêter, qui est différente en fait de la raison pour laquelle Être a dû s'arrêter, mais pour ne parler que d'Être, j'ai pris à un moment donné, peut-être de façon, alors là la psychanalyse pourrait le dire, de façon suicidaire, le risque de publier de manière concomitante des livres extrêmement difficiles. Et là je me suis tué comme éditeur, et j'ai tué ma maison. C'est dangereux, et en même temps il ne faut pas oublier que pour un éditeur comme nous, l'abondance des projets qui nous sont proposés n'existe pas. C'est-à-dire qu'en fait, j'ai eu très très peu de propositions qui venaient de l'extérieur et qui étaient des propositions acceptables. J'en ai publié chez Être et au Sourire qui mord, pas mal, mais finalement très peu. Et des auteurs renommés, j'ai quelques noms, mais je peux peut-être pas les citer là, parce que ce serait presque des dénonciations, m'ont envoyé des titres, mais c'était des merdes. C'était des fonds de tiroir, c'était des bouquins qui visiblement avaient été refusés par d'autres, et ils se disaient après tout, peut-être que Bruel va le prendre. Vous voyez ? Et ça, c'est quelque part humiliant pour l'éditeur. Et c'est inadmissible. Et moi, je les ai envoyés paître. Je leur ai dit, non, non, les fonds de tiroir, merci, il n'en est pas question. Et ça veut dire que, bien sûr, ma présence était il y avait une forte prégnance de Bruel dans cette affaire-là. Mais en même temps, pendant 37 ans, ça a été mes sous, si j'ose dire. Mes sous que j'avais pas. Ça a été mes dettes, on va dire comme ça. J'étais intégralement propriétaire des dettes de la maison. Et ça ne peut pas durer au-delà du raisonnable, mais en même temps, c'est la condition d'existence. Alors, ma réponse est merdique. Hein. Ma réponse est, enfin, pardon, elle est un peu chaotique. C'est que si j'avais la clé de ça, je serais soit je ne serais pas devenu l'éditeur que je suis, soit je serais encore éditeur. Mais cette clé, je ne l'ai pas. Et en plus, elle est liée, c'est fini, j'arrête là-dessus, elle est liée aussi à l'époque. C'est-à-dire que ce qu'il était possible de faire à une certaine période, je pense que c'est moins possible maintenant. C'est moins possible en termes d'impact sur le marché, c'est moins possible en termes de nouvelles techniques, c'est moins possible, ou peut-être plus possible, mais en tout cas, le métier est en train de changer. Et vous me demandiez un pronostic, enfin quelque chose qui serait lié à l'avenir. Je pense que le métier est en train de changer terriblement. C'est pas forcément, je dis terriblement, c'est pas du tout du pathos de dire terriblement. C'est-à-dire qu'il est en train de changer radicalement. Et cette radicalité du changement, elle est excitante, elle est passionnante. J'aimerais avoir 30 ans de moins.
Peut-être juste, est-ce que je peux poser une petite question complémentaire?
Oui, alors très très rapidement, s'il vous plaît.
Alors, est-ce que vous pensez que, aussi. Que le cadre associatif peut être une réponse à cela pour permettre une pérennisation de la culture au sein de la littérature et la littérature jeunesse en l'occurrence?
Je pense que franchement, il faut que les artistes vivent. Il faut qu'ils mangent, il faut qu'ils aient une vie décente. Et que ce soit associatif, que ce soit en SCOP, que ce soit en société en SARL, que ce soit en société anonyme, que ce soit comme vous voulez, peu importe la forme, ce qui est important, c'est que ce soit un modèle économique viable, au moins le temps qu'il dure, et que ça permette des créations qui satisfassent tout le monde, quoi, du côté de la production. Il y a un truc que j'essaierai de développer cet après-midi, si j'ai le temps, c'est la notion de microclimat de lecteur. Personnellement, et je crois que ça se voit dans ma production, j'ai jamais fait des livres, jamais, qui tentaient de rallier le plus grand nombre. Je m'en fous. Mais vraiment, je m'en suis toujours foutu. Ce qui m'intéresse, c'est qu'il soit encore possible, au début du XXIe siècle, de produire des objets culturels qui sont viables avec une couronne de lecteurs ou un bain de lecteurs relativement ténu et peu nombreux. Ça ne veut pas dire que je ne veux pas vendre des livres. Ça veut dire que ce qui m'importe, c'est de pouvoir encore être sur la ligne de crête, de produire des livres qui vont trouver 1200 acheteurs et qui vont trouver 10 000 lecteurs, donc à peu près, pour aller un peu vite, et qui vont permettre de continuer de pouvoir le faire comme ça. Donc les micro-climats de lecteurs, c'est pour moi capital. Je ne cherche pas à faire Le Petit Prince. D'abord, un, je ne saurais pas faire. Deux, ce n'est pas un mal livre, ce n'est pas un livre qui me plaît. J'ai même tendance, et c'est une provocation, mais pas que, à dire qu'un livre qui plaît au monde entier a toute chance d'être un mauvais livre.
Merci beaucoup, Christian. L'heure nous appelle à la pause prandiale. Je vous donne rendez-vous impérativement à 14h30 dans cette même salle. C'est Christian Bruel qui prendra la parole et je vous remercie encore, mesdames, pour cette fin de matinée. À cet après-midi.